en les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits, des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Ah Hum. Nous continuons dans la voie de l'autolibération, Mahamudra Dzogchen, avec la notion de réceptivité pour la transmission. Nous avons vu Mahamudra Dzogchen comme cet état de présence non duel, qui est l'ultime enseignement et l'aboutissement de tout dharma, la capacité à pratiquer cette voie directe, immédiate, dépend de la réceptivité. Alors nous allons voir ce dont il s'agit. L'exergue de Gampopa nous dit que l'on ait des facultés supérieures, intermédiaires ou inférieures, c'est-à-dire que l'on ait une réceptivité supérieure, une réceptivité intermédiaire ou une réceptivité inférieure. Dans tous les cas, la diminution des fixations du soi et l'apaisement des passions sont les meilleurs signes de succès. Kalu Dorje-chan nous dit: Mahamudra ou Dzogchen, l'essence des sutras et des tantras, le fondement de tous les enseignements du Bouddha, ne doit pas être transmis sans précaution ni divulgué sans discernement. C'est un enseignement très précieux et très sacré. Il doit être expliqué à ceux qui sont prêts à le recevoir, qui ont l'intelligence nécessaire pour le comprendre, ainsi que la confiance et l'énergie pour le pratiquer. Donc, il y a dans la transmission du Mahamudra du Dzogchen ainsi la nécessité d'appliquer un discernement, une divulgation sauvage, sans discernement, n'est pas bonne. N'est pas bonne parce qu'elle a tendance à être récupérée par l'intellect des personnes qui le reçoivent, à devenir une conception. Et là, il y a déviation. Et aussi, une mauvaise pratique du Mahamudra du Dzogchen n'amènera aucun effet, aucune réalisation, et les personnes qui s'approprierait ainsi le Mahamudra ou le Dzogchen dans une compréhension intellectuelle sans l'expérience et la réalisation, risquerait au bout d'un certain temps même de déprécier l'enseignement, n'y trouvant aucun résultat, et de le rejeter, ce qui serait la pire chose qui soit. Donc, il doit être présenté, doit être transmis à ceux qui sont prêts à le recevoir, qui ont l'intelligence nécessaire, qui ont la faculté de compréhension et l'acuité qui leur permet de le bien comprendre, et aussi confiance et énergie pour le pratiquer, confiance dans la transmission, confiance en le maître, et ainsi réceptivité, et l'énergie qui va permettre de s'y donner, de s'y consacrer vraiment, pleinement, complètement. La pépite d'or. Si une personne ayant la réceptivité permettant de réaliser Mahamudra ou Dzogchen établit une connexion profonde avec un lama qualifié, il peut y avoir une véritable transmission et une compréhension authentique. S'il y a réceptivité d'un côté et réalisation du maître dans sa capacité à bien transmettre, les deux font qu'il peut y avoir véritablement une transmission efficace, efficiente et une compréhension, une réalisation authentique. Cette personne qui a ainsi la réceptivité, ce disciple, pourra en tirer un très grand profit de cette transmission, ce qui est merveilleux et extrêmement positif. D'un autre côté, si quelqu'un de non qualifié reçoit l'enseignement de Mahamudra ou de Dzogchen, comme celui-ci est secret par nature, il n'y a pas d'inconvénient à ce que cette personne l'écoute, mais il ne pourra pas lui être vraiment utile. C'est alors indifférent. Mahamudra ou Dzogchen est un enseignement secret, pas tant que l'on veuille, qui que ce soit, en faire un secret, le cacher, ne pas le communiquer, le garder confidentiel, mais c'est un enseignement qui est secret par nature. Et nous sommes, quand je dis nous sommes, j'entends ce que je suis, l'ego dans son illusion, et ce qui cache, ce qui masque l'expérience de cet enseignement. C'est ainsi qu'il est secret par nature. Et il peut être entendu sans être compris, il reste secret. De ce point de vue, c'est indifférent, mais il y a néanmoins la possibilité des erreurs que nous mentionnions précédemment, qui fait qu'il peut y avoir des inconvénients à ce qu'il soit divulgué sans discernement. C'est ce que dit Kalu Dorje Chan. Il y a néanmoins le risque que cette personne laisse naître en elle des vues erronées ou perde la confiance qu'elle avait, ce qui serait extrêmement mauvais. Ces enseignements du Mahamudra du Dzogchen doivent donc être donnés avec discernement et d'une façon correcte. Le lama, le maître qui expose l'enseignement, doit avoir une motivation sincère, orientée vers le bien d'autrui. Motivation bodhicitta, motivation d'aider, d'œuvrer pour le bien d'autrui, pour le bien des vivants. Et le désir, le souhait de vraiment aider ceux à qui il le transmet. L'enseignement doit être compris comme étant un moyen d'obtenir la libération et d'aider tous les êtres à se libérer des souffrances du cycle des existences. Les disciples qui l'écoutent doivent, pour pouvoir en bénéficier, être capable de considérer le lama comme étant vraiment le Bouddha Vajradhara ou Samantabhadra, et l'enseignement comme un nectar dissipant toutes les impuretés de l'esprit. L'enseignement est le moyen de libération des passions, des illusions, de l'ignorance. Et dans la relation maître-disciple, il est important que le disciple ait cette ouverture de cœur et d'esprit, cette réceptivité qui lui permette d'entendre et de recevoir l'enseignement comme s'il était, comme s'il venait directement du Bouddha. Le maître étant le porte-parole du Bouddha, étant même le Bouddha en personne qui est porte-parole du Dharma. Donc, cette forme de respect, d'appréciation, est ce qui rend véritablement possible la transmission essentielle et la réceptivité véritable du disciple. Alors, si l'enseignement est compris, c'est qu'il pouvait être reçu. S'il ne l'est pas, il faut au moins garder confiance en lui, car il est extrêmement bénéfique et peut aider certaines personnes. Il est particulièrement important de ne pas laisser naître des conceptions erronées. en l'absence de celle-ci, il n'y aura aucune faute. Non, de développer des conceptions erronées vis-à-vis du maître, vis-à-vis de la transmission, vis-à-vis de l'enseignement, de garder une communication de cœur ouverte, sincère, authentique, ce qui permet d'éviter la naissance de ces conceptions erronées. Et Kalu Dorje Chan nous dit, supposez que j'ai dans la main une pépite d'or au milieu de petites pierres et de coquillages, et que je lance tout cela parmi l'assemblée. Quelqu'un trouvera peut-être la pépite d'or. Il a semé à tout vent, il y a coquillages, pierres ordinaires, mais aussi une pépite d'or, c'est Dzogchen Mahamudra. Voyons maintenant les trois types de réceptivité. Mahamudra Dzogchen peut être en fait extrêmement difficile ou à l'inverse extrêmement facile à réaliser. Cela dépend des personnes. En effet, si nous sommes tous fondamentalement identiques, puisqu'ayant tous la nature de Bouddha, il y a pourtant de grandes disparités quant à la réceptivité aux enseignements permettant de réaliser Mahamudra ou Dzogchen. Nous avons tous la nature de Bouddha, mais notre aptitude à la réaliser dans Mahamudra Dzogchen varie. Notre réceptivité, notre sensibilité varie. Certaines personnes ont une réceptivité et des facultés de compréhension supérieures, d'autres une réceptivité et des capacités de compréhension moyennes, et d'autres encore une réceptivité et des facultés de compréhension inférieures. Tous ceux dont les facultés de compréhension sont moyennes ou inférieures, et ils constituent une grande majorité, ne peuvent pas de prime abord reconnaître et réaliser la nature de Mahamudra Dzogchen. Il est nécessaire qu'ils suivent une approche progressive avec les préparations que nous avons mentionnées. D'une façon générale, il est nécessaire de nous préparer, de préparer le terrain que nous sommes, qu'il y ait des préliminaires, ces nundos dont nous avons parlé, dont la fonction est de nous rendre aptes à bien recevoir la transmission. Les personnes de capacité inférieure sont des personnes qui, entendant les explications sur Mahamudra Dzogchen, n'arrivent pas du tout à voir ce dont il s'agit. En essayant de méditer, elles restent toujours dans le doute et pensent non, ça ne doit pas être vraiment ça. Ou encore, je n'y arriverai pas, je ne vois pas ce dont il s'agit. Ces attitudes sont signes de voile qui se dissiperont par la pratique du développement dévoilement. Pratique du développement dévoilement qui s'accomplit justement dans les préliminaires ou les préparations que sont les nunjo. Les personnes de capacité moyenne ont, quand on leur présente Mahamudra Dzogchen, une certaine compréhension, mais elle est incomplète. Aussi, pour arriver à la réceptivité supérieure, leur est-il également nécessaire de pratiquer le développement dévoilement. Maintenant, les personnes aux capacités supérieures sont celles qui, quand le lama, le maître, leur présente Mahamudra Dzogchen, le comprennent tout de suite. Non seulement leur intelligence est extrêmement vive, saisissant immédiatement la profondeur de l'enseignement, mais elles peuvent aussi laisser leur esprit faire l'expérience correspondante. Donc, ces personnes aux réceptivités supérieures non seulement ont l'intelligence de l'enseignement, mais la capacité aussi d'entrer en son expérience. Elles comprennent tout de suite ce dont il s'agit et comment le pratiquer. Elles en ressentent une grande joie et obtiennent aussitôt des résultats. Ces personnes ont naturellement beaucoup de compassion, d'empathie, beaucoup d'énergie pour pratiquer et une grande confiance en leur maître et en les trois joyaux. De telles personnes, recevant les quatre niveaux de l'initiation, instaurent par celle-ci une relation, un lien qui, dans une réceptivité et dévotion sincère, établit la connexion profonde, essentielle, en laquelle se transmet l'influence spirituelle, l'inspiration. C'est cette relation privilégiée qui leur permet de comprendre rapidement le sens de Mahamudra Dzogchen et de le pratiquer de façon juste. La reconnaissance de Mahamudra Dzogchen dissipe alors les ténèbres de kalpa de samsara, comme un flambeau qui s'allume peut dissiper des éons d'obscurité. C'est une image qu'utilise Tilopa dans le Mahamudra du Gange. Il dit: un flambeau d'éveil en un instant dissipe des éons d'obscurité. La seule pratique de Mahamudra Dzogchen peut alors être la panacée, le remède universel qui pourvoit à tout pour ces personnes et pourvoir à tous les besoins. Cependant, cela n'est possible que dans des cas exceptionnels. La différence entre les personnes aux facultés supérieures, moyennes ou inférieures n'est pas tant une question de qualification extérieure, d'être femme, d'être homme, fort, faible, d'avoir ceci, cela, quoi que ce soit. Elle tient, cette différence, en ce que les personnes de réceptivité et de capacité supérieure ont déjà, en des existences antérieures, effectué le développement des voilements. Donc, ce sont des personnes qui ont moins de voiles. Les autres, par contre, n'ont pas accompli ce développement des voilements antérieurement et ont donc des résistances, des obstacles, des voiles qui sont plus épais. Donc, il est important de comprendre aussi qu'avoir des capacités supérieures n'est pas quelque chose que l'on possède nécessairement dès la naissance. Il est possible, en pratiquant largement le développement des voilements, que chacun de nous devienne en cette vie même une personne de capacité supérieure. Cela tient qu'à nous, c'est possible et c'est l'encouragement ainsi à entrer dans la pratique avec confiance, énergie et diligence. Au terme de ce chapitre, il est une histoire célèbre qui est celle de l'éveil d'Indrabuddhi. C'est un exemple de personne aux capacités supérieures. Autrefois, en Inde, à l'époque du Bouddha Sakyamuni, était le roi Indrabuddhi. En tant que grand roi, il possédait un palais et une cour où il jouissait constamment de tous les plaisirs des sens. Il était réputé, en particulier, pour être entouré de la compagnie de 500 courtisanes le jour et de 500 autres la nuit. Un jour, alors qu'il jouissait avec elle sur la terrasse du palais, passa dans le ciel une troupe de 500 grands oiseaux jaunes. Bizarre, dit-il. Je n'ai jamais vu auparavant d'oiseaux jaunes de cette taille. Prenez donc des renseignements, dit le roi intrigué. Un ministre du Dharma lui dit: Votre Majesté, ce ne sont pas des oiseaux, Mais le Seigneur Bouddha qui se déplace avec 500 arhats. Voilà qui est merveilleux, dit le roi. Invitez-les donc à venir au palais s'ils le veulent bien. Votre Majesté, il demeure fort loin et il serait long et difficile d'envoyer un messager. Mais ce n'est sans doute pas nécessaire car le Bouddha est omniscient et il suffit de le prier en pensée pour qu'il vienne. Le roi ordonna alors que l'on fît les préparatifs adéquats et que la terrasse du palais soit dégagée pour que le Bouddha, Sakyamuni et sa suite puissent atterrir. Quelques jours plus tard, lorsque la grande réception fut prête, le roi et sa cour se réunirent pour prier le Bouddha de venir, et il vint avec ses 500 arhats. Le roi fit servir le banquet, se prosterna par trois fois devant le Bouddha Sakyamuni et dit: Vous êtes merveilleux. Pourriez-vous me donner un enseignement pour que j'atteigne aussi la réalisation que vous avez obtenue? Le Bouddha Sakyamuni dit: Certainement. Et il lui enseigna les quatre nobles vérités, expliquant que tout est souffrance, et en particulier que tous les plaisirs des sens étant des enchaînements au samsara, qu'il convient de les abandonner. Le roi, quelque peu décontenancé, dit: Oui, c'est sans doute très bien, mais ça n'est guère pour moi. Je ne vais pas ainsi renoncer aux plaisirs des sens. Si vous n'avez pas d'autres enseignements, je crains de ne pouvoir pratiquer. Le Bouddha Sakyamuni avait reconnu par ses pouvoirs miraculeux qu'Indra Bodhi était une personne de capacité supérieure. Et faisant en sorte que les 500 arhats et le reste de l'entourage ne voient pas ce qui allait se passer, pour le roi seul, il fit apparaître le mandala du Yidam Guhyasamaja et lui conféra ses quatre niveaux d'initiation, en même temps qu'il lui fit reconnaître la nature de l'esprit, Mahamudra. Au moment même de l'initiation, le roi atteignit ce que l'on nomme dans le Mahayana la première terre de Bodhisattva, la joie supérieure. Puis il pratiqua Mahamudra, dans la reconnaissance de la nature de l'esprit, sans distraction, pendant 12 ans. Et ce, tout en continuant comme auparavant à jouir des cinq sens et des courtisanes. Au terme de ces 12 années, le roi atteignit la réalisation la plus élevée, la 10e terre de Bodhisattva, la pleine réalisation de Mahamudra. Il commença alors à conférer les quatre initiations de Guhyasamaja aux gens de son royaume et à leur transmettre Mahamudra. Assez rapidement, le pays se vida complètement, tous ses sujets s'en étant allés en les terres pures. Le roi Indra Bodhi était une personne aux capacités supérieures. C'est pourquoi, dès qu'il reçut l'initiation, il réalisa Mahamudra. Vous considérez peut-être que ce n'est qu'une histoire, une sorte de légende, parce qu'il est difficile d'admettre qu'Indra Bodhi ait pu avoir 500 courtisanes le jour et 500 la nuit, et que tout son royaume atteignit l'éveil.
Oui.
Mais pourtant, c'est aussi une histoire vraie. De même que l'esprit peut, par la seule force de sa pensée, éprouver toutes les possibilités de bonheur et de souffrance et faire toutes les expériences que nous connaissons d'ordinaire, Quand il est devenu parfaitement pur, cette faculté rend possible toutes les choses qui habituellement ne le sont pas. C'est pourquoi cette histoire est aussi une histoire vraie et possible. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.